Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Pulsar pour la troisième émission de Fracture, l'émission d'actualité et d'histoire critique. Cette semaine, c'est Daria qui assure la technique, à savoir moi-même, et qui va assurer l'entretien sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous sommes en compagnie de deux intervenants dans le cadre d'une émission sur la loi Blanquer et donc la réforme de l'éducation qui va bientôt avoir lieu. Je vais laisser les deux intervenants se présenter pour débuter.
Je suis Cécile, je suis prof des écoles à Poitiers. Et j'ai cette année des CM1, CM2 et puis par ailleurs je suis militante à Sud Éducation.
Ok, ça fait combien de temps que tu l'enseignes ?
Ça fait 14 ans je crois.
Ok.
Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alex. Je suis enseignant de sciences économiques et sociales à Châtellerault et je suis militant à la CNT.
Ok, et bien merci pour ces précisions de présentation. Avant d'attaquer le cœur du sujet de l'émission d'aujourd'hui, on va faire nos traditionnels brèves qu'on a pu récolter un petit peu sur les médias, les internets, les choses comme ça. On commence donc par une brève qui se situe en Charente où le 12 avril 2019, deux gilets jaunes ont écopé de 3 mois et 2 mois fermes avec mandat de dépôt, c'est-à-dire que l'un d'entre eux, directement sortant du tribunal, va en prison. Ces deux personnes étant suspectées d'avoir dégradé des radars aux alentours d'Angoulême, sachant qu'ils ont été eux-mêmes acquittés dans un autre procès où ils étaient suspectés d'avoir dégradé des horodateurs. Donc voilà, deux gilets jaunes sur lesquels la répression s'est abattue. À Poitiers, un petit peu dans le même ordre de nouvelles, cette semaine, le 16 avril, il y a eu un procès de gilets jaunes qui a été condamné à 250 euros d'amende dans le cadre d'une manifestation de passé. Il faut savoir que d'autres procès sont à venir, notamment le 3 mai, donc il y aura probablement plus d'informations de ce côté-là. Toujours sur la thématique gilets jaunes, à Nantes, le 12 avril aussi, donc la semaine dernière, 15 personnes ont été arrêtées sur la voie publique en pleine rue, un arrêt de tram, alors que ces derniers voulaient organiser un atelier de réalisation de banderoles pour la manif du lendemain. Au final, ce sont 14 personnes qui sont parties pour garde à vue au motif de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences, alors que ceux-ci désiraient faire une banderole. Autre nouvelle qui donc est apparue en début de semaine, on a difficilement pu passer à côté, à savoir que Notre-Dame de Paris brûle. Personne ne meurt et toute la France est en émoi à cause d'un bâtiment emblématique du pays qui disparaît. Néanmoins, lorsque des immeubles vêtus s'effondrent, brûlent, ou alors que ces bâtiments mettent en danger, voire tuent les gens qui sont victimes, qui y habitent et les gens victimes du mal logement, comme ça a été le cas à Marseille l'année dernière ou à Paris parfois, comme ça arrive. Et ben là, bizarrement, il n'y a pas de report de interventions présidentielles. Les mass médias ne font pas des émissions spéciales et il n'y a pas 1 milliard d'euros qui arrive pour tenter de résoudre ces problèmes de mal logement et de gens qui sont victimes de ce mal logement. Comme quoi, même les pierres et les bâtiments n'ont pas tous les mêmes valeurs aux yeux des grandes personnes. Bref, sur le nucléaire, l'EPR de Flamanville, le soi-disant nouveau réacteur super sûr et pas cher que EDF nous vend depuis un certain nombre d'années, EDF est dans l'obligation de refaire 8 soudures très importantes qui peuvent potentiellement nuire à la bonne sécurité et à la bonne marche de cette machine nucléaire, ce qui repousse l'ouverture à 2020 et c'est 8 soudures vont à peu près coûter 400 millions d'euros. C'est donc une success story à la française. Nos industries ont du talent, à savoir des années de retard, une technologie toujours aussi dangereuse et pour un surcoût de 9 milliards d'euros qui viendra de la poche du contribuable. Enfin, dernière brève internationale qui est parue maintenant il y a quelques temps, mais au Brésil, dans le cadre d'une enquête journalistique, certains journalistes ont montré que le clan Bolsonaro, président du pays depuis peu, le clan donc des proches de sa famille ou des gens avec qui il travaille, serait impliqué dans le meurtre politique de la conseillère municipale de gauche Marielle Franco, qui avait été assassinée en mars 2018. Ce que révèle l'enquête, notamment que vous pourrez en trouver des extraits sur Bastamag, c'est que la police, l'État, les classes dominantes, l'extrême droite et les milieux à la fois affairistes et à la fois mafieux semblent travailler ensemble pour pouvoir priver physiquement de parole les résistances et les oppositions à l'ordre dominant. Voilà pour les brèves, on va s'écouter un petit jingle avant de passer au cœur de l'émission.
Oh, stop. à la liberté d'expression.
Point d'interrogation.
Avant, c'était une mercerie. Là. C'était bien parce qu'on trouvait de tout. Mais ils abîment tout, ils crassent tout, ils changent tout. On sait plus où c'est qu'on en est, quoi. Dès que c'est transformé, on oublie ce qu'était avant.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Enfin, moi, ça me fait ça. Hein. Voilà.
Pulsar.
Donc voilà, vous êtes bien à l'écoute de Fracture sur cette émission dans le cadre de la réforme Blanquer qui sera votée en juin. Donc pour situer un petit peu, depuis 2011, on est à quasiment 6 réformes de l'enseignement. Réforme d'Arcos, on en a eu, voilà, il y en a eu tout un tas. Là, on ne prend pas en compte, les réformes qui ont déjà eu lieu sur l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur, sachant qu'il y a certainement d'autres projets dans les cartons de la part du gouvernement. Mais là, cette réforme, donc dite loi Blanquer, du nom de ce ministre qui porte cette réforme, quels vont être ses points forts pour cette réforme, tant sur le primaire que sur le secondaire? Qu'est-ce qu'on peut dire, présentation de cette réforme?
Alors, on peut dire que c'est une réforme qui a deux pendants, qui est à la fois une réforme libérale, puisqu'elle vise avant tout à faire des économies de postes d'enseignants. Et puis, sur l'aspect libéral, on peut aussi parler de la mise en concurrence des établissements, de la mise en concurrence même des professionnels entre eux. Et puis, elle a aussi un côté réactionnaire avec le nationalisme exacerbé, avec le fait de mettre en avant les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, tout ça. Et donc, je vais parler du premier degré. Par exemple, dans le premier degré, elle met en place... l'obligation scolaire à 3 ans, ce qui, a priori, choque pas trop, parce qu'en réalité, il y a 98% des enfants de 3 ans qui sont scolarisés aujourd'hui. Mais cette obligation, en fait, elle met en œuvre auprès des communes, auprès des collectivités locales, une obligation de financement des écoles privées. C'est-à-dire que... Pour l'instant, les communes n'ont pas à payer les écoles privées en dessous de pour les écoles maternelles privées, puisqu'il n'est pas obligatoire de scolariser les enfants à cet âge-là. Et donc, à partir de juin, donc, elles vont être obligées de financer notamment les ATSEM, par exemple, qui sont des employés municipaux pour la plupart, qui accompagnent, qui travaillent dans les classes, en fait, et qui sont des sortes d'assistants, d'assistantes des professeurs. Et donc, ça représente une masse salariale énorme.
Donc là, c'est-à-dire, tu es en train de nous dire qu'en fait, des gens qui donc refusent l'éducation publique gratuite en France... mettre leurs enfants dans le privé, mais qu'au final, ça va quand même être les contribuables et en fait l'école publique, en quelque sorte, qui va payer une partie des frais de ces structures-là dans les très petites communes, puisque tu parles d'école maternelle. Donc là, c'est vraiment en fait le public qui paye le privé.
Oui, alors déjà, le public pour les écoles sous contrat paye les enseignants. Et donc là, on passe à un autre niveau de financement qui est à la fois l'ensemble des bâtiments. Par exemple, s'il y a la construction d'un gymnase pour l'école publique, il va falloir financer aussi dans les mêmes proportions un bâtiment pour l'école privée. Et puis donc aussi les employés municipaux. Donc ça a été, c'est quelque chose qui a été chiffré à peu près 150 millions d'euros par an. Donc c'est quand même conséquent. Et puis... les petites communes, a priori, elles n'ont pas vraiment de budget pour ça, donc elles vont certainement être amenées à piocher dans le budget destiné déjà à l'éducation. Donc clairement, là, on peut parler de quelque chose qui ponctionne l'école publique pour financer l'école privée.
Dans le cadre du primaire aussi, par exemple, moi, dans la réforme, ce que j'ai pu voir, qu'en fait, il va y avoir des propositions de regrouper certaines écoles de campagne sous des collèges de tutelle. C'est un petit peu, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est en quoi, en fait, ça peut proposer en fait, des déséquilibres de territoire par rapport à l'accès à l'éducation et ce genre de choses?
Alors oui, ça s'appelle les établissements publics des savoirs fondamentaux. Et donc, ça consiste à rattacher au collège, essentiellement au collège de campagne, les écoles qu'il y a dans les villages. Donc, ça a des conséquences directes, hein, c'est-à-dire qu'on déplace les écoles des villages vers l'école du plus gros bourg dans lequel se trouve le lycée, et le collège, pardon. Et donc, ça permet de faire des économies en termes de professeurs, hein, parce que dans les petites écoles de campagne, elles ont des effectifs assez faibles. Et donc là, de toutes les ramasser, d'en ramasser plusieurs dans le même village, ça permet de
faire des économies d'échelle.
De faire des classes à 30, en fait. Et... donc, on fait là des économies de personnel et aussi la conséquence sur le territoire, c'est que ben, certains villages vont perdre leur école. Donc, clairement, là, il y a quelque chose qui se joue dans la survie de certains villages, parce qu'une nouvelle famille qui cherche une maison à la campagne, les premières questions qu'elle se pose, c'est « est-ce que je vais pouvoir scolariser mes enfants ?» Et donc, là, on fait face à encore le service public qui devient inégalitaire selon les territoires.
Sachant que les enfants, en plus, vont devoir potentiellement faire plus de kilomètres. Pour les parents, ça va être aussi plus compliqué, puisqu'il faudra certainement amener non plus l'enfant à 5 kilomètres, mais peut-être à 15 ou 20 kilomètres. Sur le rythme des enfants aussi, c'est quand même des choses qui peuvent être importantes dans le cadre de l'apprentissage, où c'est du temps de transport en plus, c'est un coût pour les parents.
Alors, certainement, c'est un coût qui va être pris en charge par les communes. Hein. Mais évidemment, à 3 ans, mettre son gamin au bus à 7h30 le matin, c'est peut-être un peu difficile, quoi. Pas forcément respectueux du rythme de l'enfant, évidemment.
Et sachant que, moi, de ce que j'avais lu sur cet aspect-là de la loi, c'est que, notamment, les écoles seraient en fait dirigées par des proviseurs adjoints de lycée. De collège. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, par exemple, par rapport au directeur d'école, qu'est-ce que ça va impliquer dans la modification même du fonctionnement d'une école, quand, admettons, il y a quelque chose à demander, plutôt que de le demander au directeur d'école, le demander au proviseur adjoint du lycée qui est à 20 bornes, du collège, pardon, qui est à 20 bornes, qu'est-ce que ça peut impliquer comme modification ?
Alors, actuellement, les directeurs d'école, en fait, ce sont des collègues des enseignants. Ils sont eux-mêmes enseignants pour la plupart et avec une petite décharge, un temps destiné à faire les tâches administratives.
Ils sont sur site, tu veux dire ?
Oui, bien sûr. Mais pour les établissements des savoirs fondamentaux, il va y avoir potentiellement une partie des écoles qui vont déménager, hein. Donc les directeurs qui sont actuellement des collègues et non des supérieurs vont perdre dans ces établissements ce statut-là au profit du principal adjoint qui deviendra de fait qui prendra les tâches administratives mais tout en devenant le supérieur des enseignants. Et dans la culture du premier degré, c'est vraiment quelque chose d'important en fait. Le directeur, il est comme nous. Le directeur, il est... C'est un collègue, on partage, on n'a pas de relation de hiérarchie avec lui et ça imprègne notre façon de travailler avec lui ou avec elle.
En fait, là, il y a un recentrement vraiment sur des compétences gestionnaires d'encadrement, genre de choses. Et donc tout le côté pédagogique d'enseignement de ces directeurs d'école, il va être mis de côté pour s'orienter sur quelque chose de plus...
Oui, de la gestion administrative uniquement.
Ok, d'accord. Est-ce que sur le secondaire, toi Alex, tu as quelques points, notamment sur cette, on a parlé notamment du réforme du bac. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait ?
Alors les réformes Blanquer par rapport au secondaire, elles visent à réorganiser le lycée, c'est-à-dire que le lycée général et puis le lycée professionnel. Alors le lycée professionnel, on pourra en parler brièvement parce que c'est pas je ne suis pas très compétent là-dessus.
Toi, tu n'es pas enseignant en lycée professionnel ?
Non, je suis enseignant en lycée général. Donc, pour le lycée général, les trois filières qui existaient jusqu'à présent, donc scientifique, littéraire, et économique et social, vont disparaître. Et c'est pour ça qu'on parle d'une réorganisation du lycée, puisque les élèves, à la fin de la seconde, devront choisir parmi, normalement, 12 spécialités Donc devront en choisir 3, puis de la première à la terminale, ils devront en choisir 2 parmi les 3 choisis précédemment. Voilà. Donc ici, cette suppression des filières, elle amène à des nouvelles formes de sélection, dans le sens où toutes les spécialités, déjà, ne seront pas proposées dans tous les lycées. Dans le cadre de la réforme, il y a 12 spécialités proposées. Or, en moyenne, les établissements en proposent 7 ou 8, avec des prédominances plutôt scientifiques ou plutôt littéraires. Donc ça amène, comme Cécile le disait tout à l'heure, dans l'aspect libéral, une concurrence entre les établissements et dans le recrutement des élèves. Ensuite, le choix que les élèves vont faire va avoir des conséquences sur leur orientation post-bac, notamment dans ce qu'on appelle les attendus dans le supérieur. Et donc ça, c'est en lien avec l'application Parcoursup pour savoir un petit peu ce qu'on va faire après le bac. Autre point qui amène une nouvelle forme de sélection entre les élèves et une sélection sociale, c'est que au-delà de ces 3 spécialités choisies à la fin de la classe de la seconde, en première et en terminale, il y aura un tronc commun. Et dans ce tronc commun, il y a une discipline qui n'apparaît pas, c'est les mathématiques. Autrement dit, les mathématiques qui sont une discipline souvent mal perçue, mal appréhendée par les élèves, qui fait un petit peu peur, va devenir la matière qui va permettre de sélectionner les orientations et de sélectionner les élèves pour le supérieur.
Ce qui est déjà plus ou moins le cas dans le sens où, par exemple, des gens qui ont fait des études scientifiques peuvent plus facilement accéder, tout du moins un bac scientifique peuvent plus facilement accéder à des études littéraires que le contraire. C'est-à-dire que là, ça va se renforcer, ce sera encore vraiment plus difficile. Alors, éventuellement des passerelles ou des choses comme ça.
C'est-à-dire que les élèves sont incités à choisir les mathématiques puisque les mathématiques font partie de quasiment tous les attendus dans le supérieur. Or, le programme de mathématiques qui est proposé pour cette spécialité est d'un niveau scientifique, type bac S. Autrement dit, ce n'est pas un niveau qui est adapté à l'ensemble des élèves. Et la cohérence des filières qu'il y avait jusqu'à présent, finalement, disparaît. Et ça, c'est à mon avis, le point qui va permettre justement une sélection sociale des élèves et la compétition entre les établissements. On pousse davantage les élèves à choisir la spécialité mathématique, même s'ils n'aiment pas ça, pour leur garantir plus de choix d'orientation pour la suite.
Admettons qu'un élève veuille une spécialité qui n'est pas dans son lycée, qui n'est plus dans son lycée. Parce que, par exemple, il y a certains lycées qui ont des spécialisations, mais qui vont peut-être disparaître au profit de plus gros lycées avec plus de moyens, plus attractifs. Comment ça va se dérouler pour cet élève ? Est-ce qu'on sait si, un petit peu, il y a des emplois du temps qui vont être aménagés ? Comment ça se passe ?
Alors, dans les premières ébauches de la réforme, puisqu'on parlait de liberté et de libéralisme, les élèves pouvaient, à leur guise, choisir plusieurs établissements pour multiplier les choix de spécialité si elles n'étaient pas proposées dans leur établissement d'origine. Chose qui est complètement impossible à mener, qu'on soit dans une ville, même une ville à taille moyenne comme Poitiers, et c'est encore plus irréalisable lorsqu'on habite à la campagne, par exemple. Donc ça veut dire que les élèves sont obligés de regarder, et vont être obligés de regarder, chaque spécialité proposée par chaque lycée, et de choisir les lycées en fonction de ce qu'ils veulent faire. Autrement dit, dès la classe de 3e, il va falloir penser à l'orientation post-bac, pour pouvoir s'implanter, alors dans un territoire, c'est peut-être un grand mot, mais du moins se rapprocher d'un lycée qui fournira les spécialités. Et normalement, ces réformes prévoient des transferts entre établissements d'élèves.
Voilà. Ok. Donc, parce que moi, je sais que j'avais lu, par exemple, un billet qui avait été proposé par un professeur d'un lycée du côté d'Angoulême qui, lui, justement, se plaignait du fait qu'ils avaient une option cinéma, mais que dans le cadre de la réforme, en fait, cette option allait disparaître. Et en fait, elle allait être rapportée à Angoulême. Et cet enseignant expliquait qu'il y avait de très grandes chances, en fait, que ce qui faisait le cœur de ce lycée-là, de campagne, c'était cette option cinéma-là. Et que via ces regroupements-là, eh bien, les élèves allaient devoir se retrouver à aller à Angoulême, s'ils voulaient faire cette option-là, à devoir faire 40-50 km de plus. De la même manière que là, pour les écoles, pour la question du regroupement des écoles primaires. Une fois de plus, avec ces logiques-là, on va encore avoir des distances qui vont s'éloigner entre le lieu de vie des élèves, potentiellement leur domicile familial, et le lieu d'études, le lieu d'apprentissage, ce qui va multiplier encore plus non seulement les coûts, bien sûr, kilométriques, mais aussi comme on le disait tout à l'heure, sur la question de la fatigue, parce que bien sûr, les internats n'auront peut-être pas des places pour tout, mais excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, par rapport à ce type d'options, ce sont des options très particulières, en fait, on est toujours dans une logique de concurrence entre établissements et de concurrence entre élèves, puisque ce type de spécialité ne peut pas accueillir, peut accueillir un certain nombre d'élèves, et donc il va y avoir une sélection pour ce type de spécialité ou d'option. Voilà. Donc on est toujours dans cette volonté de toujours mettre en concurrence à la fois les établissements et les personnes qui travaillent dedans. Et je tiens à préciser que les réformes Blanquer, ce sont des réformes qui modifient la structure même de l'école. Et, on va le voir très rapidement dans cette mise en concurrence entre établissements.
Donc là, par exemple, c'est-à-dire qu'on a une école qui va être plus à même de former des travailleurs, on va dire, dociles ou des gens qui vraiment, leur parcours scolaire doit être peut-être la future armature de leur parcours professionnel, plutôt que d'avoir une école qui forme des citoyens, des individus émancipés avec des approches critiques. On est vraiment là dans une adéquation entre la demande du monde du travail et l'école et l'enseignement, en fait.
En l'occurrence, on parle de bassins de besoins, c'est-à-dire des besoins de l'industrie locale qui vont permettre d'ouvrir. Les options vont être ouvertes en fonction des besoins économiques locaux. Et donc, pour revenir à la question des options rares qui vont être centralisées dans les établissements de centre-ville, en fait. Hein. C'est ce qui se dessine. Là, il y a la question du tri social qui se pose parce que, clairement, un élève issu d'une catégorie populaire pour qui la famille n'aura pas la capacité, le capital culturel ou le capital social pour l'encourager à suivre ses envies, pour lui donner les moyens à la fois matériels, mais aussi les moyens moraux de s'inscrire dans l'option qui l'intéresse. La place là sera prise par un enfant de bourgeois.
Oui, parce que moi, je sais que j'avais lu des chiffres notamment qui expliquaient qu'au sein du même académie, deux élèves de deux lycées différents, d'un lycée coté et d'un lycée moins coté, en fait, l'élève du lycée coté, avec donc APB, admission post-bac, le nouvel algorithme, avec une note de bac plus basse, celui-ci accède plus facilement à l'enseignement supérieur, ou tout du moins des établissements cotés de l'enseignement supérieur, alors qu'un élève issu de la même académie, mais d'un lycée défavorisé, lui, il lui faudra, admettons, 15 ou 16 pour pouvoir accéder à ces établissements-là d'études supérieures. Donc on a effectivement là vraiment un système qui va encourager le creusement des inégalités sociales.